Les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1973, Viviane Forester rencontrait Victoria Ocampo, écrivaine et éditrice argentine. Voici le premier entretien de cette série, diffusé pour la première fois sur France Culture le 4 décembre 1973. Souvenir de celle que Marguerite Moreno surnommait Hérisson.
Victoria Ocampo, toi qui es la grande dame des lettres argentines et qui a introduit toute la littérature européenne en Amérique du Sud et en particulier en Argentine, tous les grands écrivains français contemporains, alors qu'ils n'étaient pas encore connus, comment as-tu pris contact avec la littérature française? Raconte depuis le commencement.
Mon premier contact avec ce qui a tenu tant de place dans ma vie, la littérature française, a eu lieu dès mon enfance. À 6 ans, j'apprenais l'alphabet ici, à Paris, et on me lisait la comtesse Ségur. À notre retour à Buenos Aires, après un long voyage, notre éducation passa aux mains d'une institutrice française, une anglaise aussi, mais la française avait les pleins pouvoirs que nos parents lui accordèrent. Elle s'appelait Alexandrine Bonnemaçon. Elle n'était pas coulante. Par ailleurs, j'étais une enfant gâtée par des grandes-tantes qui faisaient mes 4 volontés. Quand je dis 4, j'exagère, car je n'en avais que 3. Les livres, la musique et la vie au grand air. Mademoiselle, après La Fontaine, naturellement, nous fit apprendre par cœur des tirades de Racine, Corneille, Hugo. Racine me plaisait particulièrement, pour des raisons subjectives, un mot qu'on n'employait pas à cette époque. Cela ne m'était pas arrivé avec La Fontaine. Je pensais que tous ces animaux étaient ou bien des vauriens ou de pauvres petits imbéciles, à l'exception des 2 pigeons, que jamais on ne nous fit apprendre. Pour Racine, c'était une autre paire de manches, comme disait Mademoiselle. Je me passionnais pour ces princesses passionnées et pour ces princes malheureux. J'avais 13 ans à cette époque. Je me reconnaissais dans leur désespoir, bien que les causes du mien n'étaient pas les mêmes. Grâce au ciel, mon malheur passe mon espérance. Oui, je te loue au ciel de ta persévérance, appliquée sans relâche aux soins de me punir. Au comble des malheurs, tu m'as fait parvenir. J'appliquais sévère à mes rapports avec Mademoiselle. Trop de grammaire, trop d'arithmétique, trop de caps de péninsules et de départements français avec leur chef-lieu. Ça m'assommait. Pourquoi me remplir la tête de fractions décimales et d'analyses grammaticales?
Et c'était seulement à Mademoiselle que tu adressais les tirades de Racine?
Et il y avait aussi des tirades de Racine pour mon père. Car quand je me conduisais mal, c'était à lui que Mademoiselle allait se plaindre. Alors je me retrouvais dans Phèdre, misérable, et je vis et je soutiens la vue de ce sacré soleil dont je suis descendu. Que diras-tu, mon père, à ce spectacle horrible? Je crois voir de tes mains tomber l'urne terrible. Je crois te voir cherchant un supplice nouveau, toi-même, de ton sang, devenir le bourreau. Il me semblait que je comprenais Racine beaucoup mieux que Mademoiselle et que Racine m'eût comprise.
Et Mademoiselle était-elle sévère et en quoi était-elle sévère?
Par exemple, Mademoiselle ne voulait pas qu'on lui réponde, entre guillemets, excepté quand elle posait des questions sur nos devoirs. Je trouvais ce système à sens unique intolérable. Et je passais mon temps à conjuguer 5-6 fois par jour le verbe répondre. Je réponds, tu réponds, il répond, nous répondons, etc. Mais je préférais la punition au silence. Un jour, elle me sermonnait et parlait du temps où je deviendrais une jeune fille mariable. Je lui dis que mon mari ne devait pas s'attendre à la remplacer, que j'avais l'intention de lui répondre tant qu'il me plairait. Elle eut un mot sublime, « Il vous tuera ». Je répondis « Pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ?» Cette fois, elle fut interloquée.
Et, odeur de mademoiselle, toi qui as connu vraiment les Français les plus illustres, les plus passionnants, et je sais que tu vas nous raconter beaucoup de souvenirs sur eux. As-tu rencontré en Argentine d'autres Français que mademoiselle à ce moment-là ?
Écoute, vers ma 15e année, nous eûmes à Buenos Aires la visite de Coquelin et de sa troupe.
Ah oui.
Parmi les actrices, il y avait Marguerite Moreno, qui attira immédiatement mon attention. On discutait souvent sur elle, on disait qu'elle était laide. Moi, je disais que c'était la femme la plus extraordinaire du monde. Nous allions à toutes les matinées. Et un beau jour, ce fut l'aiglon. Trois ou quatre jours après, je savais la pièce par cœur. Et je n'exagère pas avec tous les rôles. Car je me retrouvais dans ce pas prisonnier, mais. Tu te souviens, je ne suis pas prisonnier, mais qu'à cheval je sorte, je sens le doux honneur d'une invisible escorte. Pas prisonnier du tout, mais je suis le second à lire mon courrier, etc. Je le sais encore par cœur. Même les passages sans rapport avec mon drame particulier d'adolescente née dans un milieu proche parent de celui de La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca. Je me souviens de tout, par exemple de la scène des soldats, tu te souviens ? Il y a 7 boutons à la Bible de roi. Les collets sont exacts, les revers sont fidèles. Torsade, brandebourg, trèfle, nid d'hirondelle, tout y est. Ce quelqu'un ne peut être indécis, ni sur un passepoil, ni sur un retroussi. Les liserés sont blancs, les pattes sont 3 pointes. Ô toi, qui que tu sois ami, c'est à main jointe que je te remercie. Ô soldat inconnu, qui je ne sais comment, je ne sais d'où venu, a trouvé le moyen dans ce bagne où nous sommes. De repeindre pour moi tous ces petits bons hommes. C'était le bagne pour moi, comme pour l'aiglon.
Ah, c'est extraordinaire, tu te souviens de tout par cœur. Tu aimais beaucoup Rostand.
Oui, oui. Une photo de Rostand était sur ma table de nuit, dans cette maison de San Isidro, que j'ai donnée cette année à l'UNESCO pour y faire un centre. Il me semblait qu'il avait traduit mon drame, parallèle à celui du duc de Reichstadt, dans d'autres circonstances, d'autres conditions, naturellement. Mais c'était le drame du pas prisonnier, mais.
C'est merveilleux de se retrouver dans un personnage comme ça et dans un auteur. Et Marguerite Moreno, l'as-tu rencontrée finalement et lui as-tu parlé ?
Marguerite Moreno devait rester à Buenos Aires plusieurs années. Et j'obtins qu'on me permît de prendre des leçons de diction avec elle. Ce fut le bonheur presque absolu.
Ah oui.
Presque parce que j'aurais voulu faire du théâtre pour de bon. Et ma famille s'y opposait. J'entrais en plein avec Moreno dans Musset, les nuits, Verlaine, Baudelaire, Rimbaud. Et je revins à Racine, Hermione surtout. J'aimais le rôle d'Hermione. Je ne t'ai point aimé, cruel, qu'ai-je donc fait ? Cette fois, Hermione traduisait pour moi d'autres problèmes. Je n'admirais que les hommes beaucoup plus âgés que moi. Ils me traitaient en gamine et en gamine plus ou moins douée. Je me croyais un laidron, indigne d'attirer l'attention de ces messieurs. Mais par bonheur, il me suffisait de les admirer.
Et tu as, c'est merveilleux de prendre des leçons avec Marguerite Moreno, c'est exceptionnel. Est-ce que tu en as pris longtemps?
Très longtemps. Elle m'appelait Hérissonne.
Ah!
Parce que je lui disais, je sais bien que je suis un hérisson. Elle était une vraie amie pour moi à cette époque. Je garde ses lettres. Elle poussait la gentillesse jusqu'à me lire du courte ligne d'une façon inimitable. J'en pleurais de rire. L'histoire de Lidoire, par exemple. Et enfin, tout courte ligne. Finalement, chez des amis qui donnaient une grande soirée, je fus invitée à réciter avec Moreno, pense-t-il ce que c'était, la nuit de mai. J'étais la muse, en tunique blanche. Elle était le poète, avec une drôle de petite perruque blonde. Je crus mourir de bonheur. Il n'en fut rien, puisque j'existe encore. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. De croire que j'allais mourir de bonheur ou de désespoir. Mais j'ai toujours survécu.
Et Victoria, quand es-tu retournée à Paris?
Vers mes 18 ans. Nous sommes restés plus de 2 ans et demi à l'hôtel Majestique. À un moment donné, les Rostand pour Chanteclair y sont arrivés. Mais j'étais déjà tournée vers d'autres dieux, bien que ma fidélité à l'aiglon fût immuable. J'étais toujours un pas prisonnier, mais c'est à ce moment que je rencontrai Maurice Rostand. C'était l'époque où je connaissais les fils, le fils de Rostand, le fils de Loti. Jamais les pères. Ou bien des secrétaires. Brousson, le secrétaire d'Anatole France.
Tu voyais souvent Maurice Rostand à l'hôtel Majestique?
Je voyais Maurice presque tous les jours. On parlait des pièces de son père. Nous les récitions en chœur. Dans une revue ou journal, je ne sais plus, on publia, je me souviens, un article racontant qu'à l'hôtel Majestique, de belles Argentines, je ne sais pas si j'étais belle, mais j'étais Argentine, se promenaient dans les couloirs, guettant Edmond Rostand. Ça, je le faisais d'ailleurs.
Et après, selon ces jours, quand tu étais jeune fille, où es-tu allée?
Nous sommes retournés à Buenos Aires. Je me suis mariée. Mon mari était assez beau, intelligent, mais nous n'avions pas les mêmes idées. Je croyais, comme une idiote que j'étais, que j'allais pouvoir le convertir à mes idées, mais pas du tout. La lune de miel a été de courte durée. Chez nous, il n'y a pas de divorce. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs années de séparation, où nous partagions la même maison qui, heureusement, était grande. Et je ne voulais pas faire de chagrin à mes parents pour qui une séparation était une catastrophe. Eh bien, nous commençons à vivre chacun de notre côté dans des maisons différentes.
Et quoi encore, Victoria Ocampo, raconte encore des souvenirs.
J'assistais à la première du Sacre du Printemps.
Vous y étiez?
Et j'y retournais chaque fois qu'on le donnait. Il me semblait que c'était un tremblement de terre de la musique. D'ailleurs, Cocteau l'a très bien dit, c'était un cataclysme apprivoisé. la salle houleuse de cette première m'avait épouvantée. Je n'avais rien vu de semblable. On ne put rien entendre ce soir-là. Nous étions pourtant au premier rang des fauteuils d'orchestre. Je rencontrai Stravinsky lui-même en 1934, grâce à Ansermet.
Cet entretien, le premier d'une série proposée par Viviane Forester, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 4 décembre 1973.